Radio Bach, notre 27e troisième partie avec Ludovic Roux. Je rappelle qu'il est président des caves coopératives viticoles d'Occitanie. Et lui-même, en tout cas, monsieur Roux, vous êtes viticulteur à Talleyrand, il faut le rappeler. Et vous gérez et vous présidez, entre autres, la cave coopérative viticole. Alors, j'aimerais que, on a commencé à le faire et vous avez commencé à le faire clairement, mais à continuer un petit peu, à jeter un regard un peu visionnaire et futuriste sur ce que sera la viticulture et les vins de demain.
Très bien. Bon, on va essayer.
Alors, on va peut-être commencer par, il faut cultiver la vigne. Mmh. Cultiver la vigne aujourd'hui, vous l'avez évoqué avec les sécheresses, c'est de plus en plus essayer de retenir de l'eau. Mmh. Ça, c'est le grand défi. Alors, il y a l'eau à consommer pour le robinet, mais pour l'irrigation, ça peut passer par des retenues d'eau. Alors, le terme à la mode aujourd'hui, c'est les retenues collinaires. Comment voyez-vous ça, Ludovic Roux?
Alors, pour répondre à la question, en fait, je vais d'abord répondre à la première pour commencer à parler de l'avenir. Je pense que déjà, la priorité, si on veut parler d'avenir, c'est qu'il faut redonner confiance aux vignerons. Là, on en arrive à une situation dramatique pour certains et il y a un manque de confiance à l'avenir. Donc, on a, et là, je dois quand même dire que les pouvoirs publics ont pris conscience de tout ça et on a une enveloppe aujourd'hui pour baisser le potentiel viticole. Ce qui, nous l'espérons, permettra de rééquilibrer un peu le marché pour arriver à un mot qui est pour moi très important, à retrouver une rentabilité.
Mmh. Je pense que là. Et quid de la place aux jeunes, comme on dit, c'est une formule, mais est-ce qu'il y a encore un attrait pour un certain nombre de jeunes vers la viticulture?
Alors justement, c'est tout ça qu'il va falloir que l'on travaille, puisque je pense que la base de tout, c'est la rentabilité, j'insiste, parce que la rentabilité au sens large, et pour trouver une rentabilité, il y a plusieurs leviers. Donc, cette première action de remettre un peu le potentiel au niveau par rapport à ce que l'on sait vendre va être l'urgence là dans les mois qui arrivent pour redonner espoir aux gens et peut-être à ce moment-là réintéresser ou continuer d'intéresser, parce que malgré tout on installe encore quelques jeunes en viticulture pour revenir vers chez nous et vers la viticulture. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, en effet, il va falloir traiter plusieurs leviers de cet objectif donc de rentabilité. L'eau en fait partie, donc je ne vais pas en parler trop longtemps, mais il y a quelques éléments à avoir en tête. Évidemment qu'il faut qu'on puisse travailler à améliorer et à agrandir nos ressources en eau. Donc ça passe en effet par des retenues collinaires, ça peut passer par des carriers qui font des trous pour aller chercher des matériaux et qui au moment de reboucher, au lieu de reboucher, ben
finance. En fait, c'est stocker l'eau.
Finance pour stocker l'eau, etc. Ça peut être des forages avec parcimonie.
Parce que là, on touche aux nappes phréatiques.
Voilà, en veillant à ne pas toucher n'importe quelle nappe phréatique, n'importe comment. Voilà, il faut être très très prudent là-dessus. Ça peut être la réutilisation de l'eau brute,
oui,
notamment
des
dans les caves coopératives, dans les stations d'épuration. Et ça peut, et ça doit aussi, à mon avis, être l'eau du Rhône. Et je pense qu'il faut un investissement massif pour que l'eau du Rhône arrive jusqu'à Barcelone et qu'on profite de cette eau pour irriguer, au sens large du terme d'ailleurs, les territoires qui sont les nôtres, donc les Pyrénées-Orientales et l'Aude.
Mais là, elle arrive jusqu'où? Elle arrive dans l'Aude, l'Aude?
Aujourd'hui, elle arrive dans l'Aude. Alors, où exactement, je ne l'ai pas...
L'étang de Jouarre,
mais
je crois
que
par
c'est
là.
Par là, l'étang de Jouarre, le Narbonnais, voilà. Donc là, on a l'eau qui arrive jusque là, mais le tuyau, on va dire, est arrivé à l'optimum. Donc il faut.
Oui, il faut préciser que les Catalans, il y a 20 ou 30 ans, l'avaient refusé.
Tout à fait. Je pense que bon, on va pas refaire l'histoire, oui. Mais évidemment que si c'était à refaire, je pense qu'ils le referaient pas. Mais d'ailleurs, pour ne pas parler que des Catalans, les AOP audoises étaient contre l'irrigation il y a 30 ans.
Oui,
hein,
voilà,
les choses évoluent.
Oui.
Donc là, l'idée, ce serait quand même que l'eau du Rhône puisse venir jusqu'à chez nous pour schématiser et que l'on puisse stocker de l'eau l'hiver, prendre de l'eau du Rhône l'hiver au moment où il y a de l'eau à profusion. On parle de milliards de mètres cubes, alors que la consommation humaine au sens large, elle est de quelques centaines de milliers de mètres cubes. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est tout à fait possible. En même temps, l'eau de la mer Méditerranée monte. Donc il y a vraiment quelque chose qui est possible par rapport à ça. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de tous, parce que ça sera pas que l'eau pour les vignerons, ça sera pas que l'eau pour les maraîchers, ce sera aussi l'eau pour avoir de l'eau potable. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie politique de la gestion de l'eau. Je pense que la plupart des gens en ont pris conscience, mais il va falloir maintenant aller le plus vite possible, parce que il y a des situations sinon qui vont devenir catastrophiques. Donc ça, c'est pour la partie eau. Maintenant, il faut être très clair entre nous, 75% du territoire viticole audois ne sera jamais irrigué ou irrigable. Ça, il faut en avoir conscience.
Une si grande proportion.
Alors aujourd'hui, on est à 15%, je crois, irrigable et irrigué.
Pas plus, oui.
Si on fait 10% de plus, qu'on arrive à 25% de notre vivant. Après, peut-être...
Donc, il n'y aura pas de bouleversement là-dessus.
Alors, 15% de plus, ça fait quelques milliers d'hectares. Oui, bien mais, sûr. Mais il faut quand même avoir conscience que 75% des vignes de ce département, pour les 20 ans qui arrivent, ne seront jamais irriguées. Donc, partant de là, on doit se concentrer aussi, je dis bien aussi, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr travailler sur l'eau, mais il faut se concentrer aussi sur cette partie-là. Donc là, on en a un peu parlé,
oui,
mais il faut s'adapter.
Les fameux cépages tolérants, les nouveaux cépages adaptés à cette sécheresse.
Il y a la recherche variétale, donc sur les cépages, sur les porte-greffes aussi, puisque c'est eux qui vont puiser l'eau et le terroir. Il faut aussi travailler sur les méthodes culturales. Donc là, il y a des gens, des experts qui commencent à travailler sur faire l'inverse de ce que faisait mon grand-père, par exemple. C'est-à-dire, avant, on faisait des ruisseaux pour que l'eau parte le plus vite possible de nos parcelles, parce que la vigne ne supporte pas l'eau stagnante. Eh bien, aujourd'hui, avec si peu d'eau, il faut faire l'inverse. Il faut, au contraire, trouver des mécanismes qui font que l'eau va rester... Le peu d'eau qui tombe, il faut qu'elle reste sur notre parcelle. Donc, il va falloir qu'on travaille aussi la typologie de nos sols, etc.
Est-ce que le goutte-à-goutte est adapté à la vigne ?
Le goutte-à-goutte peut être adapté dans certaines situations. L'essentiel étant que si on met du goutte-à-goutte, il faut qu'il y ait de l'eau garantie pendant toute la période végétative. Si jamais il y a un arrêt, ça peut être contre-productif. Donc peut-être que dans les zones très arides comme les Hautes Corbières, il sera moins adapté parce qu'on n'aura jamais assez d'eau pour irriguer toutes les vignes.
Pas la certitude d'avoir une alimentation régulière.
Et donc il vaudra mieux peut-être faire par aspersion ou d'autres mécanismes qu'il faudra inventer. Et ensuite, donc, par rapport à, si on fait de la prospective, il y aura aussi l'adaptation, donc, comme je l'ai dit, au marché, et faire évoluer les goûts du vin. Donc là, il faudra que chacun dans nos entreprises, on ait aussi une évolution aussi, par rapport à nos investissements. Moi, je dis souvent qu'il faudra qu'on investisse aussi dans la matière grise. Donc, il va falloir qu'on soit en capacité, que notre filière aille chercher les talents pour faire de la recherche et du développement sur tous ces sujets.
Oui, ce qui est déjà le cas, vous le disiez tout à l'heure.
Ce qui est déjà le cas, et je pense qu'il faudra l'accentuer. Et j'ai envie de dire, presque de passer un message aux jeunes qui ne sont pas vignerons, mais qui par contre aiment notre région et qui aiment le vin.
Il pourrait y avoir des débouchés dans la recherche œnologique.
Voilà, ils peuvent faire des études scientifiques sur l'œnologie, sur ingénieur agronome, et avoir un métier passionnant, bien rémunéré, et dans notre territoire méditerranéen qui est magnifique, avec la montagne, le soleil, la mer. Je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, mais une filière, c'est aussi ça. C'est tout un tas de métiers autour de nous qui peuvent être intéressants et qui fixent les gens et les talents sur le territoire. Ensuite, il y a aussi une réflexion qu'il faut que l'on ait, nous, en tant que professionnels, c'est quelles sont les attentes des jeunes qui, demain, voudront être vignerons, faire mon métier.
Oui, le métier.
Je pense que certains continueront à le faire de la même façon que nous, mais je pense qu'il y aura aussi tout un tas de jeunes qui voudront le faire autrement. Donc là, on essaie aussi d'innover avec des groupements d'employeurs, avec la capacité à faire des cumas. Les cumas, c'est des coopératives de partage du matériel. L'idée étant de dire peut-être que certains voudront travailler un peu moins de parcelles de vignes et pendant une période de l'année faire d'autres métiers. Soit un lien direct avec la vigne, donc ça peut être travailler dans une cave coopérative, soit un lien avec leurs produits, ça peut être aller vendre du vin, soit qu'ils n'ont aucun lien, et ça veut dire aller travailler pour une autre entreprise ou pour une municipalité, ou faire de l'agritourisme, parce que quand on parle d'avoir des ressources qui proviennent de différentes activités.
Oui, l'agritourisme.
L'agritourisme, quand on est dans notre région, je pense qu'on est, vraiment très loin d'être arrivé à l'optimum. Donc je pense que pour arriver, et je reviens au mot auquel je tiens, à la rentabilité, on a plusieurs chemins, plusieurs leviers à actionner, et qu'il faut surtout pas qu'on ne se concentre que sur un de ces leviers. Et il faut également qu'on retrouve cette confiance, parce que j'insiste aussi sur ça. Moi, je crois beaucoup aux énergies, au collectif, et évidemment que la crise, elle est terrible, et que socialement, elle fait mal. Mais si on n'a pas cette volonté de croire à un possible demain, on le fera jamais. Donc ça, c'est important. Et notre rôle, c'est de montrer qu'il y a du possible.
Et on le voit, le monde viticole est en effervescence de par les changements, les nouveautés qui sont induites. Et un tout dernier mot, on n'imagine pas l'Aude ou les PO ou l'Hérault sans la vigne.
Alors moi je l'imagine pas, j'espère que personne ne l'imagine. Voilà, on va.
En tout cas, il y a des gens qui se battent pour
Voilà.
que ça dure, et c'est un peu quand même dans la nature des choses.
Tout à fait. Je sais plus combien de générations il y a eu avant moi, j'espère qu'il y en
Encore
aura
beaucoup
après
d'autres.
moi beaucoup d'autres. Je pense que le paysage et la culture de ce département est tissé par la viticulture. Donc pour moi, il y a un avenir. Bien sûr que le changement climatique
Oui,
est
et
très
là,
anxiogène, hein,
oui.
je ne sais pas à quel point on pourra y résister.
Oui.
C'est-à-dire que là, on a tout un tas de leviers. Le prix du vin aussi est un
Oui,
levier. C'est-à-dire
voilà,
que je
effectivement.
pense qu'il faut continuer à faire valoir la qualité de nos vins, les valeurs que l'on porte, pour qu'on puisse aussi aller expliquer un prix supérieur qui pourra permettre cette rentabilité. Après, s'il ne pleut plus, si on descend en dessous de ce 250 mm d'eau par an de façon régulière, il arrivera un moment où ce sera plus possible. Mais j'ose espérer
Ouais,
qu'on n'en arrivera pas là.
voilà, pas de mauvais augure à ce sujet. Merci Ludovic Roux pour toutes ces explications et ce regard sur la viticulture d'aujourd'hui, mais la viticulture également de demain.
C'est toujours un plaisir.
Le prochain invité sera Yves Penet, qui est adjoint au maire de Narbonne, chargé de la culture. On parlera avec lui notamment du tourisme, mais surtout du patrimoine médiéval, notamment de Narbonne. Merci à vous, Monsieur Roux. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Rendez-vous à la semaine prochaine.
Merci.